Oui, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Il y a quelque temps, j'ai acheté, parce que je le voyais comme ça, en publicité, devant un débit de tabac, un magazine, 1000 raisons de croire. C'était le premier numéro. Bon, je dis, tiens, intéressant. Bon, j'ai acheté. Et puis j'ai vu, voilà, un bon nombre de démonstrations qui font que les chrétiens, enfin, les hommes et femmes de ce siècle peuvent encore croire. Mais je me suis quand même dit, 1000 raisons de croire, c'est une chose. Mais en définitive, est-ce que j'ai 1000 raisons de croire ? Je n'ai en définitive, personnellement, et je crois que c'est le cas pour chaque chrétien, qu'une seule véritable raison de croire. Et cette seule raison, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est ce que je vais vous apporter maintenant à travers ce que l'apôtre Paul nous donne dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors il y a un arrière-plan, bien sûr, à ce message, cette parole que l'apôtre donne aux Corinthiens. Corinthe, voilà, c'était dans la Grèce, avec pas loin Athènes, c'est tout un contexte. Et il y avait, dans cette région du monde, beaucoup d'enseignements religieux et philosophiques. La période hellénique était foisonnante. D'ailleurs, nous avons, dans le livre des Actes, le passage de l'apôtre Paul à Athènes. Et voici un extrait de ce passage, parce qu'autrement ce serait trop long si je lis tout, mais au chapitre 17, versets 16 à 21. Comme Paul les attendait à Athènes, c'est-à-dire les autres disciples qui devaient le rejoindre, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. » Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Alors, période très particulière, la période voilà, de l'Empire gréco-romain, beaucoup d'échanges sur le plan philosophique et spirituel. Alors, à ce sujet, les Athéniens qui ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles, je peux dire que notre temps n'est pas mal non plus dans ce domaine. Des nouvelles, nous en avons, et des enseignements, il y en a à foison. Aujourd'hui, le contexte reste le même. La place publique a changé un peu. Ce n'est plus la place du marché, et encore, ça reste. Mais enfin, vous savez, les lieux maintenant d'échange de toutes les idées qui peuvent être véhiculées dans le monde. Et voilà, deuxième point, que le témoignage de Dieu fait irruption au sein de ce monde. Ce témoignage, il a une origine, il vient de Judée. L'apôtre dit, je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il est porté par des envoyés, les apôtres et les disciples de Jésus qui parfois avaient été dispersés contre leur gré. Ce sont des hommes, les apôtres, qui avaient une foi et une connaissance éprouvés. Et ils apportent le témoignage de Dieu. C'est un message simple, direct, précis. Et le témoignage de Dieu, depuis ce temps-là, n'a jamais cessé. Les confusions et les rébellions ou les indifférences d'aujourd'hui demandent simplement qu'ils soient inlassablement rappelés. Dieu est Dieu. Il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les paroles qu'apporte l'apôtre, je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, sont des paroles pour nous aujourd'hui. Et les sources fiables de ce témoignage, eh bien, ce sont, et ça demeure, les écrits des apôtres de Jésus-Christ, tels qu'ils ont été originellement transmis, c'est-à-dire les quatre évangiles, les actes des apôtres, les épîtres de Paul, Jacques, Pierre, Jean, Jude, celles aux Hébreux et l'Apocalypse de Jean. Nous avons les paroles qui nous donnent le témoignage de Dieu. Prêcher et enseigner sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, ces paroles touchent le cœur des croyants par la parole de Dieu. Et c'est ainsi Dieu qui apporte son témoignage aujourd'hui comme hier, parole nécessaire et parole suffisante pour qui met sa confiance en Dieu. En résumé, le témoignage de Dieu est authentique, historique. Il change la religion et il vous donne la vie. Et voici ce témoignage. Connaissez Jésus-Christ crucifié. C'est ce que Dieu veut que vous connaissiez. L'apôtre Jean dira, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Donc il s'agit pour nous, premièrement, de considérer à nouveau Jésus-Christ lui-même, l'histoire de Jésus-Christ. Et là, si vous vous plongez dans l'histoire de Jésus-Christ, vous allez observer, premièrement, quelqu'un qui a une nature d'homme différente des autres hommes. en ce que premièrement il est rempli de puissance, qui a accompli les guérisons, les miracles que Jésus accomplissait. Jésus avait autorité sur la maladie, sur les éléments naturels, quand il calme la tempête, quand il multiplie le pain, sur les démons. Chaque fois qu'il avait en face de lui un esprit mauvais et qu'il lui intimait l'ordre de partir, les démons lui obéissaient. Jésus était rempli de toute la puissance de Dieu. Il a fait la démonstration du royaume de Dieu par ses actes de puissance. Deuxièmement, vous allez trouver en Jésus la perfection. Jamais il n'a été pris en défaut. Il était toujours dans les vraies relations, au bon moment. Et il s'est même cantonné dans des limites que lorsque ses ennemis ont voulu lui faire franchir ces limites, il ne s'est pas laissé prendre dans ce piège. Jésus-Christ était rempli d'une sagesse parfaite et d'une justice personnelle parfaite. Il a pu dire à un moment donné, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et puis, troisièmement, vous allez trouver avec Jésus l'homme de l'ouverture et de la compassion envers tous. Jésus-Christ était ouvert à tous. Il allait à la rencontre de tous. Il pouvait manger aussi bien chez les publicains, avec les prostituées, que chez les pharisiens, les hommes religieux bien établis. Il allait partout où il était reçu. Il ne refusait personne. D'ailleurs, il dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Voilà qui vous allez rencontrer dans l'Évangile. Jésus-Christ, sa personne différente, pas seulement un prophète, un homme rempli de toutes les qualités de la divinité. Deuxièmement, vous allez aussi rencontrer un enseignant qui apporte un message singulier, surprenant. Ce message, il est ancré dans la connaissance antérieure, celle apportée au peuple d'Israël par la loi de Moïse, et dans son obéissance. Plutôt que d'innover, Jésus faisait surtout comprendre la loi de Moïse. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour accomplir, disait-il. Vous avez appris, mais moi je vous dis, dans son sermon sur la montagne, moi je vous dis, en vérité, je te le dis. Voilà la manière de parler de Jésus. Il enseignait, à la fin de son sermon sur la montagne, la foule disait, était surprise, parce qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Vous savez, et encore maintenant, lorsque nous étudions les Écritures, nous essayons de les expliquer, nous avons des hésitations. Nous avons des interprétations, et puis ça peut être remis en cause par d'autres. Lorsque Jésus parlait, c'était net, c'était complet, c'était parfait, et personne ne pouvait reprendre ou renchérir sur sa parole. Il a, bien sûr, son propre message, un message singulier, très singulier. lorsqu'il donne les principes du royaume. Son premier discours, celui que j'ai mentionné, le sermon sur la montagne, commence par les béatitudes. Je vous les relis rapidement. Message qui vient bousculer toute la pensée humaine naturelle. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà le message fondamental de Jésus, la parole qui tranche. Qui est capable d'assimiler vraiment ces paroles et de les faire siennes? C'est pourtant dans ce but que le Maître les a transmises. Comme les disciples qui l'entouraient, nous sommes souvent pris en flagrant délit d'incrédulité, de dureté de cœur, comme il est dit à leur sujet. Mais en tout cas, le constat a été fait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais regardez mieux, écoutez mieux, et vous verrez et entendrez que Jésus n'a pas seulement donné un discours, Jésus s'est donné à nous dans ses paroles. Il est dans ses paroles pour nous attirer à lui, jusqu'à ce que, par lui, ses paroles se mettent vraiment à vivre en nous. Et là, notre vie change. Et puis Jésus, c'est un acte, bien sûr. Il prévient assez vite ses disciples. Marc, chapitre 8, verset 31. « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. » Je n'ai pas le temps ici de développer tout l'enseignement de Jésus à son propre sujet, mais il annonce ce que personne ne pouvait concevoir ou imaginer, le don de sa vie comme une rançon pour beaucoup. Voilà l'acte volontaire du Fils de Dieu. On ne prend pas ma vie, je la donne. Je vous le lis dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, chapitre 10, verset 18, enfin 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà Jésus qui se présente comme étant le sacrifice que Dieu va agréer. La mort de Jésus sur la croix, c'est l'acte suprême, le don de sa vie pour sauver les pécheurs. Ce jour-là, lorsque Jésus était sur cette croix, il mourait pour toi. Bien sûr, Jésus n'a pas surgi dans l'histoire comme un génie d'humanité. Cette histoire de Jésus est contenue dans l'histoire de Dieu. De nos jours, les hommes aiment à penser qu'ils génèrent eux-mêmes une histoire de progrès. Jésus, dans ce cas, serait une de ces figures qui contribuent à éclairer la conscience humaine. Un grand sage, quoi. Mais ce n'est pas du tout le cas. Jésus a été donné par Dieu. Le dilemme de l'être humain, c'est sa relation avec Dieu. Et ce n'est pas tellement lui-même qui l'a compris, c'est Dieu qui lui a fait remarquer cela. Le premier homme a mal agi envers Dieu. Lui qui a été fait à l'image de, qui avait reçu l'insigne honneur d'être créé à l'image de Dieu, il a mal agi. Et depuis, tous agissent mal. Pas tous de la même façon, mais suffisamment pour être perdus. Alors Dieu a agi en toute justice et en toute sagesse depuis le commencement des temps. C'est le parcours que suit la Bible. Quelques éléments de repère. Premièrement, Dieu exerce un jugement sur le premier monde devenu impie par le déluge. Deux, Dieu appelle un homme à marcher dans l'espérance, Abraham. Dieu se forme un peuple qu'il arrache à la domination du monde, Israël en Égypte. Dieu donne une loi et établit un sacerdoce par Moïse. Dieu désigne un roi selon son cœur, David. Et Dieu annonce un sauveur pour son peuple qui est constamment en échec. Et puis au moment voulu, Dieu envoie l'ange Gabriel vers la jeune fille Marie. Dieu, par le Saint-Esprit, conçoit son fils dans le sein d'une vierge. Dieu fait briller une étoile pour que des savants viennent reconnaître Jésus pour ce qu'il est, le roi des Juifs. Dieu donne un précurseur pour préparer le chemin du Seigneur. Et à ce moment, Jésus paraît publiquement vers l'âge de 30 ans. Il entre dans son ministère parce que tout est prêt, préparé par Dieu dans ce but. La seule question qui se pose alors est « Jésus sera-t-il fidèle à celui qui l'a donné au monde ?» Et la réponse est « Oui, Jésus a été fidèle. » Il a démontré la puissance de Dieu, certes. Il a donné un enseignement pur, c'est incontestable. Mais surtout, il a donné sa vie comme le Père le lui avait demandé. On assiste à ce moment crucial lorsqu'il est prêt d'être arrêté, qu'il va prier au jardin de Gethsémané et où là il est envahi par l'angoisse au moment de prier. Et il finit par dire à son Père, à trois reprises cette prière, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Jésus a obéi. Il ne s'est pas retranché. Il ne s'est pas esquivé. Il est allé là où Dieu lui avait désigné, au lieu du supplice, au lieu du sacrifice. Et c'est là qu'il a tout réparé, cette relation brisée entre l'homme et Dieu. Voilà la raison que nous avons de croire en lui, à l'égal de croire en Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Croire en lui, c'est croire en Dieu. Et croire en Dieu, c'est croire en lui. Et être sauvé. En résumé, nous croyons en Jésus-Christ et en Jésus-Christ crucifié pour nous. Jésus n'est pas seulement un homme exceptionnel apparu dans l'histoire. Sa venue, c'est Dieu qui dit et qui fait son histoire en notre faveur, l'homme qu'il a créé à son image. Vous êtes tous porteurs de l'image de Dieu. Et Dieu ne veut pas vous perdre, mais il veut vous garder à lui. Et la seule personne humaine, Jésus-Christ, assume la relation de toute personne humaine avec le Créateur des cieux et de la terre. Une relation nouvelle, fondée sur le don. Comme au cœur de cette relation, il y a une erreur qui vient de l'homme, une transgression qui entraîne beaucoup d'autres transgressions, qui entraîne des pensées et des actes profondément injustes envers le souverain, les hommes entre eux, mais aussi envers le souverain de notre vie. Jésus-Christ a assumé l'injustice pour te libérer du jugement divin. Dieu qui t'aime l'a donné au monde dans ce but. Et Christ ne s'est pas dérobé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois en Dieu en croyant à celui qu'il a donné, lui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. L'éternité qui était perdue et rendue accessible en Jésus-Christ. Le temps et le monde visible sont condamnés. Nous avons tous un temps très limité sur la terre. Mais par Jésus, nous sommes maintenant reliés à l'invisible éternité de Dieu. Dieu est le Dieu éternel, invisible, immortel. Personne n'a pu le voir ni ne peut le voir, mais Jésus-Christ est celui qui nous ramène à lui, qui nous relie à lui. Faites-lui confiance pour votre salut. Le sceau du salut parfait conçu par Dieu et réalisé par Christ, c'est, parce que tout cela, ça pourrait n'être qu'un discours, mais c'est sa résurrection d'entre les morts. Dieu a ressuscité son Fils parce que toute justice a été rendue et que par là, le croyant est promis lui aussi à une résurrection de vie. Alors que vous regardiez Dieu produisant le salut ou Jésus-Christ travaillant ce salut jusqu'au bout, tout est parfait. Il est ressuscité, monté au ciel, à la droite de Dieu, maintenant. Alors définitivement, pour cette seule raison, il y a bien d'autres raisons qui peuvent vous faire des approches, mais pour cette seule raison, croyez. Amen.